Vous écoutez RTL.
Jean-Michel Blanquer, merci beaucoup d'être resté avec nous pour répondre aux parents qui vont nous appeler, aux enseignants, je l'espère aussi. Auparavant, une question dans l'entretien qu'accorde le président de la République à nos confrères du Point, outre cette phrase que vous avez commentée tout à l'heure avec Elisabeth Martichoux, nous allons entamer une révolution de l'éducation dès cette rentrée. Il y a une autre phrase assez étonnante. Le président de la République nous dit les pauvres, sont souvent moins les retraités que les jeunes. Est-ce que ça vous inspire pour les jeunes dont vous avez la charge ?
Bien, ça nous inspire tout simplement que la jeunesse doit être notre très grande priorité, parce qu'effectivement, c'est une situation anormale d'avoir une jeunesse à la fois paupérisée et surtout une jeunesse à qui on ne dresse pas suffisamment des perspectives d'avenir.
Donc, s'il y a bien... Vous savez que ça choque beaucoup de retraités qui nous écoutent ce matin et qui disent on a travaillé, on a des difficultés, on aide nos petits-enfants, voilà, qui prennent à rebours. Qu'auriez-vous envie de leur dire ?
J'ai envie de leur dire, ne le prenez surtout pas à rebours, au contraire. Justement, quand on a des petits-enfants, on comprend très bien de quoi il est question. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des retraités qui ont des difficultés matérielles, c'est évident. Et bien entendu qu'il faut y penser et travailler pour les retraités qui ont le plus de difficultés, c'est évident. Mais néanmoins, il y a une solidarité intergénérationnelle à avoir, qui n'est pas seulement une question matérielle, qui est aussi une question immatérielle. Nous devons tenir des discours d'avenir à la jeunesse, des discours qui font envie, qui créent du désir, qui fait qu'on sent que la société du futur est pleine d'opportunités. Et évidemment, ça va avec des aspects matériels.
Vous avez adressé tout à l'heure sur notre antenne un message de confiance aux enseignants, et les enseignants ont eux aussi envie de vous interroger. La première à le faire s'appelle Florence. Bonjour Florence.
Oui, bonjour. Merci
d'écouter RTL. Vous nous appelez de Strasbourg dans le Bas-Rhin. Vous êtes enseignante et je vous laisse interroger le ministre de l'Éducation nationale.
Très bien. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour madame.
Alors très vite, je vais me présenter. J'ai 50 ans, j'enseigne depuis 26 ans. J'ai travaillé 20 ans en ZEP. Ça fait 2 ans que je suis dans une école, disons, ordinaire entre guillemets. J'ai un CPC1 qui est à 25. Et dans notre école, on a des effectifs à 30. On a une classe ULIS, donc il faut qu'on fasse de l'inclusion d'enfants qui ont des problèmes de comportement et cognitifs, etc. Donc ça nous fait des effectifs quelquefois à 31-32. Voilà. Et donc moi, j'ai toujours voulu être enseignante depuis l'âge de 3 ans. Voilà. Et là, je me pose la question... Est-ce que je ne vais pas arrêter ? Parce que j'ai l'impression que les conditions se dégradent, qu'on est plus ou moins abandonné, qu'on nous en demande chaque année de plus en plus, de plus en plus, à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, et hop, on change. Et on a l'impression de pas être aidé, en fait, vous voyez, de se retrouver. Alors, on a une équipe super. Moi, j'ai travaillé 20 ans ZEP avec des super équipes. Et donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour des gens comme moi qui ont 50 ans et qui ont envie d'arrêter ? Et c'est vraiment, je vous assure que c'est, au fond de moi, c'est ma passion, hein, l'enseignement. Donc,
je le sens bien.
Voilà, et juste encore une chose, pour moi, un prof bien dans sa peau, c'est un prof qui enseigne mieux, hein, qu'un prof
bien
qui
sûr.
Se sent... Voilà.
Je suis tellement d'accord avec vous. Je comprends parfaitement tout ce que vous avez dit. Je souscris en plus, évidemment, à ce que vous venez de dire.
Que profs comme Florence aient envie de rester dans la maison ?
Surtout, ne partez pas au moment où les choses vont aller mieux. Évidemment qu'il y a un certain nombre de problèmes, et vous en avez mentionné certains. Je tiens à vous dire tout de même qu'on a affiché une priorité parfaitement clair s'agissant de l'école primaire. Ça se traduit cette année par le dédoublement des classes de cours préparatoires en réseau d'éducation prioritaire renforcé, mais ça se traduira par bien d'autres choses. Et ces autres choses, elles seront inspirées par l'écoute du terrain, c'est-à-dire par des personnes comme vous. Mon message principal, encore une fois, c'est pas un message abstrait. Quand je dis la confiance, ça se traduit par des choses pratiques, et notamment le fait de donner plus de pouvoir au terrain, plus de capacité à définir un projet éducatif localement. Je sais bien que souvent, les professeurs considèrent leur institution comme une sorte de chape de plomb qui les empêche finalement de s'épanouir et d'agir. Mais je veux exactement l'inverse, et je veux évidemment que ce que vous avez dit, c'est-à-dire le bien-être des professeurs, au service justement d'un enseignement qui sera encore meilleur. Donc ça se traduira par des choses, vous savez, on pourrait développer longuement sur l'école primaire, mais c'est la priorité. Et quand je dis que c'est la priorité, je sais que les professeurs de l'enseignement secondaire sont totalement d'accord avec ça, parce qu'ils savent bien qu'ils ont besoin aussi d'élèves qui arrivent en sixième avec les fondamentaux bien acquis. Donc vous avez le profil exact de ce dont on a besoin, donc surtout restez, on va faire des choses en équipe très positives.
J'espère que vous êtes requinqué, Florence, en tout cas il y a un projet. Excusez-moi, je ne vous redonne pas la parole parce que vous êtes très nombreux à vouloir discuter avec notre ministre. Et maintenant j'accueille Laurence, qui est directrice d'école rurale et qui est enseignante dans le département de l'Eure. Bonjour Laurence, oui. Jean-Michel Bonjour. Blanquer vous écoute.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour madame.
Oui, donc je suis directrice d'une école primaire, 8 classes, 204 élèves demain, lundi qui arrivent à l'école. Nous ne sommes pas en REP, ni en REP+, donc nous ne disposons d'aucune aide humaine. Et alors, moi, en tant que directrice d'école, j'ai une classe. Je suis déchargée un tiers temps, c'est-à-dire une journée par semaine et une journée supplémentaire toutes les 3 semaines. Et donc, je dois faire le secrétariat, le téléphone, le portail, l'accueil, la réception des marchandises, la gestion, évidemment, tout ce qui est pédagogique, et puis la liaison avec la mairie, etc. Enfin bon, voilà, beaucoup de directeurs d'école se reconnaîtront dans ma situation. Et j'aimerais savoir s'il est un jour question d'avoir un véritable poste d'emploi de vie scolaire comme on a eu pendant quelques temps, et une pérennisation de ces postes pour nous permettre, directeurs d'école, de souffler un peu et de nous consacrer aussi avec un peu plus d'importance à notre premier rôle, c'est-à-dire l'enseignement.
Oui, là aussi, vous posez une question très importante. Vous êtes d'ailleurs à la croisée de plusieurs sujets. D'abord, je crois que vous avez dit que c'était une école rurale. Je voudrais signaler à quel point nous sommes en soutien des écoles rurales. C'est un engagement là aussi qui a été pris par le président de la République. Nous voulons en quelque sorte une reconquête en la matière, en rendant l'école rurale toujours plus attractive. Il faut dire d'ailleurs à ce micro que en moyenne les écoles en milieu rural ont de meilleurs résultats qu'en milieu urbain. Et nous allons donc travailler à cela, mais d'une manière, je dirais, offensive pour créer les conditions permettant de bien travailler. Le sujet que vous posez est un sujet de très ancien, puisque c'est au fond le fait, même si peu de gens le savent, mais il n'y a pas un véritable statut des directeurs d'école et pas non plus les moyens afférents.
On a compris que Laurence, elle fait tout jusqu'à aller ouvrir le portail quand il n'y a personne. Quoi, voilà.
C'est ça. Alors c'est aussi, il y a une dimension très humaine de l'école primaire qu'on retrouve au travers de cela. Mais il est évident qu'on doit faire évoluer les modes de fonctionnement de l'école primaire. C'est un des dossiers qui sera ouvert, en ne perdant pas tout ce que ça a de positif, mais en se donnant de meilleures conditions pour que vous puissiez vous...
Elle aura des EVS, parce que c'est finalement sa question, à Laurence.
Et vous savez que l'éducation...
Si oui, comment ?
L'éducation nationale a été définie comme prioritaire sur le sujet des contrats aidés. C'est comme cela qu'en cette rentrée, nous accueillons les élèves en situation de handicap avec en réalité plus de moyens. Il y a non seulement 50 000 contrats aidés, mais aussi 22 000 personnes, plus 8 000 autres, pour 8 000 qu'on appelle donc des AESH pour l'accueil des élèves en situation de handicap. Je rappelle que là aussi, on est devant une grande priorité. Donc on sait avoir des priorités, on sait cibler sur les sujets que nous considérons comme les plus importants. Bien entendu, nous devons, dans les temps à venir, justement faire évoluer ce type de fonction. Ce n'est pas, un contrat aidé qui est nécessairement le support le plus pertinent pour aider une directrice d'école, mais par contre, il faut quelqu'un, et c'est évidemment autour de ce type de statut nécessaire que l'on va discuter.
Vous nous dites que l'intitulé n'est pas important, ce qui compte, c'est que la fonction soit occupée d'une façon ou d'une autre.
Exactement, et puis d'une façon qui soit bonne pour les uns et les autres, c'est-à-dire la moins précaire possible pour la personne concernée, et d'une manière bien définie aussi pour que le service public soit accompli.
On a beaucoup de monde au standard, je vais essayer de prendre le plus d'auditeurs possible. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Laurence. Nicolas, bonjour, vous nous appelez de Paris et le ministre de l'Éducation nationale vous écoute.
Oui, bonjour Yves Calvi, bonjour monsieur le ministre.
Bonjour monsieur.
Je voudrais témoigner du combat des parents d'enfants souffrant de troubles 10, d'obtenir des aménagements nécessaires de la part des enseignants, notamment parce qu'ils ne connaissent pas ces troubles et qu'ils ne sont pas formés aux adaptations qu'ils nécessitent, même si la plupart d'entre eux veulent bien faire. Est-ce que vous êtes conscient de cette situation et est-ce que vous comptez développer la formation des enseignants sur ce point ?
En l'occurrence, par exemple, pour les problèmes de dyslexie.
Tout à fait. La réponse est oui. J'en parlais encore hier, voyez-vous, avec Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge du handicap, pour qui justement ce point-là que vous venez de dire est un élément majeur, c'est-à-dire que nous allons progresser en matière de formation de ces personnels d'accompagnement dont je viens de parler, les 80 000 dont je viens de parler, mais aussi en matière de formation continue des professeurs, de façon à ce qu'ils ne soient pas démunis devant les conséquences de ce que nous appelons l'école inclusive, c'est-à-dire une capacité à mieux accueillir les élèves avec différentes situations de handicap et les différentes dyspraxies sont évidemment à considérer. Vous voyez, j'évoquais spontanément tout à l'heure la question de l'accueil des élèves en situation de handicap. Ensuite, il faut rentrer dans le détail, évidemment, de chaque sujet. On est, par exemple, en train d'enclencher le 4e plan autisme. Il va y avoir toute une série de travaux sur différents types de handicap. S'agissant des dyspraxies, j'y suis extrêmement attentif et il y aura un plan de formation, en effet, de formation continue pour les dyspraxies.
Je me permets quand même de prendre la question qui devait vous être posée par Sylvain et qu'il m'en excuse, mais mais le président Macron s'était engagé à ce que chaque enfant en situation de handicap dispose d'un AVS. Hier, on avait une maman qui nous a appelé et qui interrogeait Sophie Cluzel, votre consoeur secrétaire d'État aux personnes handicapées, en lui disant « J'ai deux jumeaux, il y en a un qui a quelqu'un pour s'occuper de lui, le second qui n'en a pas. Est-ce que ces problèmes peuvent être réglés dans des délais raisonnables et est-ce qu'on va faire vivre cette engagement présidentiel, j'allais dire, dans le mois qui suit cette rentrée. Oui. Même si lundi, 8h, tout n'est pas réglé, ce qu'on peut comprendre.
Absolument. Comme je vous l'ai dit auparavant, vous avez vu, il y a un effort budgétaire, quantitatif, important, puisque dans les circonstances budgétaires qui sont les nôtres, nous réussissons quand même à mettre plus de moyens sur l'accueil des élèves en situation de handicap. Notre système d'organisation aujourd'hui n'est pas optimum. On a d'un côté ce qu'on appelle les MDPH, qui prennent en quelque sorte les décisions, et ensuite l'éducation nationale qui doit gérer les décisions prises par ces maisons départementales du handicap. Il y a certainement des évolutions à imaginer dans le futur pour qu'on aille au plus près réellement du besoin de l'enfant et qu'il y ait une adéquation entre les moyens que l'on utilise et la fin que l'on vise. Je ne dis pas que la situation est idéale. Paris ne s'est pas fait en un jour et on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Néanmoins, on est en progrès en cette rentrée et par rapport à chaque cas particulier comme celui que vous venez d'évoquer, il va de soi qu'en effet, au cours du mois de septembre, chaque cas est examiné, au cas où il y aurait des choses injustes qui se passeraient pour évidemment les corriger.
On va donner la parole maintenant à Betty qui nous appelle du département de l'Essonne. Bonjour Betty.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour voilà, Madame.
Bonjour. Donc voilà, moi je suis la maman d'un professeur stage, d'un professeur d'histoire géographie, donc stagiaire. Il a eu son CAPES en 2015 d'histoire géographie. Nous ne savons pas ce jour s'il est titulaire ou pas, et nous sommes à la veille de la rentrée des classes pour les professeurs. Donc nous sommes inquiets par rapport à sa situation et bon lui également. Je voulais savoir ce que vous pouviez me dire à ce niveau.
Voilà, deux ans après son CAPES, votre fils ne sait toujours pas s'il va être prof d'histoire titulaire ou non.
Voilà, tout à fait.
Ces situations sont fréquentes, monsieur.
Alors, évidemment, je ne connais pas le détail de la situation de votre fils. C'est évident que...
Ça vous surprend ou pas, franchement ?
Ça me surprend à moitié. Il y a des choses de ce type qui peuvent arriver. Il peut y avoir certains personnels qui ne connaissent pas leur affectation à quelques jours de la rentrée. Ça arrive, c'est très minoritaire. Évidemment, nous avons vocation à diminuer ce type de cas. Je manque d'informations, honnêtement, pardon madame, sur le cas que vous évoquez, donc je ne veux pas répondre à côté, mais c'est évident, en tout cas en termes généraux, je peux vous dire que, évidemment, notre but est que les affectations soient prononcées le plus tôt possible. C'est normalement ce qui se passe au début juillet. Pour les professeurs qui débutent, il peut y avoir des exceptions à ce que je suis en train de dire, mais évidemment, c'est un des sujets que je regarde très fortement. Nous voulons une entrée dans la carrière de nos professeurs réussie, progressive d'ailleurs, qui leur permette tout simplement de se sentir à l'aise dans leur nouveau métier.
En une phrase, s'il vous plaît, à la une de Télérama cette semaine, je lis « Les enseignants sont-ils bien formés ?» Que répondez-vous à cette question ?
Je réponds qu'on peut beaucoup mieux faire. Vous savez, la formation des enseignants, c'est pratiquement le premier facteur de réussite d'un système éducatif. Et donc, il faut réussir cette formation des enseignants, et ça repose sur deux choses fondamentalement. Premièrement, une recherche de très haut niveau qui a un impact sur cette formation. Autrement dit, que se fait-il de mieux aujourd'hui dans le monde en matière d'enseignement pour les enfants ? Il faut donner ça aux professeurs lorsqu'on les forme. Et deuxièmement, il faut que ceux qui les forment soient des praticiens. Un petit peu comme en médecine, si vous voulez. Quand vous avez un professeur de médecine, il est à la fois très bon en recherche et en même temps, il va à l'hôpital en permanence. Eh bien, pour les professeurs, on doit avoir un peu la même chose.
Et le dernier à vous interroger ce matin sera Arnaud qui lui nous appelle de Strasbourg dans le Bas-Rhin. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Écaville, bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour Monsieur.
La question est très simple, j'ai entendu parler que vous vouliez peut-être modifier les vacances de la Toussaint et dans le même principe, moi j'ai un gamin qui était en 6e qui 15 jours avant les vacances d'été, les professeurs lui passaient des films et donc on se plaint que les élèves ne sont plus présents au collège en fin d'année scolaire mais les professeurs ne font pas leur travail non plus.
Oui.
Est-ce que vous allez remédier à ce problème ?
On lui passait des films mais ça n'était pas dans le cadre, on est bien d'accord.
Non, tout à fait.
Voilà, du ciné-club du lycée, ou du collège, pardonnez-moi. Le ministre vous répond. On entend souvent ce genre de choses.
Alors d'abord, il faut avoir une vision globale de cette question. C'est ce que j'appelle le temps et l'espace de l'enfant au XXIe siècle. On est dans une société qui se transforme du tout au tout, avec notamment les technologies numériques, avec toute une série de transformations que nous vivons les uns et les autres. Et l'école est au milieu de tout cela, en situation de donner des racines et des ailes à nos enfants. Et pour ça, il faut évidemment avoir une vision globale. J'ai parlé tout à l'heure des écrans, on peut parler du sommeil, on peut parler des rythmes en général, le rythme quotidien, le rythme hebdomadaire et le rythme annuel. On ne peut pas toucher à ces questions par petits bouts. On doit avoir une vision d'ensemble. C'est pourquoi tout au long de cette année, je vais ouvrir une grande concertation sur ces questions, ce que j'appelle le temps et l'espace de l'enfant au XXIe siècle, où tous les secteurs pourront s'exprimer pour exprimer des choses comme ce que vous venez d'exprimer, monsieur, que j'entends très bien, même si j'émettrai une réserve sur votre dernière phrase, parce que, je le disais tout à l'heure, je pense que nous devons être en soutien de tous nos professeurs en France aujourd'hui. Et que, bien entendu, personne n'est parfait, mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de sentir cette solidarité de la société française vers tous les professeurs pour faire réussir l'école. Mais le phénomène que vous avez pointé, il existe, il est dû notamment à la date des conseils de classe et aussi au type d'examen qu'on a en France, avec le bac en particulier. Donc ça fait que le mois de juin et le début du mois de juillet, c'est filoche. Et il faut que l'on prenne à bras-le-corps cette question. Et je peux vous dire que c'est ce que l'on va faire.
On va se séparer. Un dernier point, Jean-Michel Blanquer. Nous allons entamer une révolution de l'éducation dès cette rentrée, explique le président Macron dans les colonnes du Point. La première révolution, ça serait peut-être que tous les petits Français sortent de l'école primaire en sachant réellement lire et écrire. C'est votre propos ?
C'est mon premier propos. S'il y a bien une chose que je veux faire, il y en a plusieurs, vous l'avez compris, mais j'ai une première priorité, c'est l'école primaire. Dans cette priorité, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui. J'insiste sur ces quatre piliers. Je veux ajouter que ma deuxième priorité, c'est l'enseignement professionnel, parce que je veux des élèves qui puissent s'insérer dans la vie avec réussite. Il y a ensuite des troisième, quatrième, cinquième sujets. Mais si j'ai une première priorité, c'est celle que vous venez d'énoncer.
Vous serez où lundi, Jean-Michel Blanquer ?
Je serai dans une école, évidemment. Je saluerai notamment des cours préparatoires.
À quel endroit ?
Je ne peux pas le dire encore, mais vous le saurez, je pense, dès demain. Et c'est défini, évidemment. Et ce sera dans un bel endroit de France où l'école de la République est fière d'elle-même parce qu'elle réussit à donner des savoirs fondamentaux aux enfants.
Avec le président en Moselle, par exemple ?
Ça, vous le verrez.
Bon, je sens que je n'aurai pas la réponse à ma question. Bonne journée, merci d'être venu ce matin sur l'antenne d'RTL, Jean-Michel Blanquer, et d'avoir accepté aussi de dialoguer avec les auditeurs de notre radio. Très bonne journée à vous.
Merci à vous.
Vous avez beaucoup de travail devant vous.
Merci.